Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti !
Cette semaine, pour finir l'année en beauté, on vous propose une édition spéciale Top et Flop Féministe de 2017. Il faut dire qu'il y a eu de quoi faire, quand même.
Pour ce numéro spécial paillettes et tout de fin d'année, on est en studio avec deux meufs qu'on aime beaucoup. Déjà Juliette Redzer, qui est rédactrice en chef du magazine de cinéma Trois Couleurs.
Bonjour, bonjour.
Voilà, on se connaît nous deux depuis l'école primaire, donc ça me fait très plaisir. Et qui est Miss, qui est afroféministe, activiste, autrice et poétesse, et qu'on a découverte sur Twitter où elle fait God's work. Elle donne beaucoup de conseils de lecture.
Hey!
Salut les filles, on est super contentes de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, on va faire une petite introduction. Comment ça va? Quoi de neuf dans vos vies? Comment vous terminez 2017? Quelle est l'ambiance pour vous qui est Miss, par exemple?
Alors, ça va. Il fait beau, donc je suis contente. Je vais manger beaucoup de foie gras, donc je suis encore plus contente. On termine 2017 en ne refaisant pas la même erreur que l'année dernière où on disait 2016 c'était horrible, 2017 nous voilà, hein, parce qu'on a vu ce que ça a donné, donc non. Mais non, sinon ça va plutôt bien.
Et toi Juliette ?
Eh ben moi, écoute, ça va très bien aussi. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je termine 2017, alors qui est mise, désolée, mais j'espère vraiment que 2018 sera meilleur que 2017 en ce qui me concerne. Ça a été une année un petit peu difficile. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, je suis enfin en vacances. Donc, je profite, je glande et je tiens à passer ce message. C'est important de savoir ne rien faire.
Et toi, Clem ?
Alors moi je suis au bout du rouleau de fatigue et de travail, donc j'ai hâte que ça, tout ça se termine. Par contre je suis assez contente que le mot de l'année soit féminisme. Yeah, ça nous parle à toutes. Selon voilà, le dico américain.
Mais attends, t'aimes pas les mecs?
C'est ça en fait.
Et après il faut quand même rappeler que cette année 2017 a commencé avec la marche des femmes, la Women's March, et s'est finie avec toutes ces affaires Weinstein. Donc c'était assez une année assez surprenante et pleine de rebondissements.
Harvey Weinstein stands accused of rape, assault and multiple attempts to cover it all up.
Et surtout c'est pas l'année où les femmes ont parlé, puisque beaucoup de gens ont dit ça, ah les femmes se sont enfin exprimées en 2017. Non, en fait on les a juste écoutées. Voilà, nuance. Voilà. Et sinon, il y a eu voilà, des élections, comme on se souvient, le Muslim ban, il n'y a plus de ministère des droits des femmes, et voilà, le harcèlement élu produit de l'année.
Élu produit de l'année.
Et toi, Mel ?
Ouais, moi, on va dire que quand même, je me suis remise en forme après 2016. c'était quand même moins pourri que 2016-2017, soyons quand même généreuses. Mais bon... on est quand même contente que ça se termine, hein, parce que moi Donald Trump personnellement je sais qu'il sera là encore en 2018.
Ouais,
mais voilà, j'ai besoin de vacances comme Juliette, et puis je pars en Afrique dans quelques jours, donc
yeah,
voilà, je suis
cool.
Très contente,
bye, bye.
Au revoir, adieu, j'éteins les réseaux sociaux. Voilà.
Et alors dans le détail, personnellement et professionnellement, qu'est-ce que vous avez accompli cette année?
Alors, en ce qui me concerne, cette année, à côté du magazine donc, où je suis rédac chef, qui m'occupe quand même pas mal de temps, je dois dire, ça me laisse peu de temps malheureusement pour faire d'autres choses, mais j'ai quand même réussi à co-réaliser avec une journaliste qui s'appelle Raphaël Simon un documentaire pour la télé sur le mythe du grand amour, qui était un sujet très intéressant, parce qu'il s'agissait d'aborder le grand amour comme un mythe, donc comme une construction sociale et culturelle, et notamment pour ce qui nous intéresse particulièrement, de se rendre compte que à quel point le mythe du grand amour nous assigne à des rôles en tant qu'homme, en tant que femme,
ouais,
et à quel point c'est difficile
très
d'en sortir. Exactement. Voilà. Donc,
bravo.
Merci.
Et toi qui es Miss ?
Alors, 2017, c'était quand même une année assez intéressante pour moi sur le plan pro, parce que c'était l'année de l'écriture. Donc là, j'ai pu préparer mon premier recueil de poésie qui va sortir en 2018.
Donc,
je suis assez contente.
Ça s'appelle comment ?
Alors, ça s'appelle « À nos humanités révoltées ». Et ça va être publié donc aux éditions Métagraphe. C'est une maison d'édition féministe intersectionnelle. Donc, genre, je suis juste trop contente, quoi. Et donc, il y a ce projet-là. Il y a aussi le fait d'écrire un chapitre avec une chercheuse américaine qui s'appelle Akugo Emejulu. Donc, et ça, ce sera sur le féminisme noir, enfin les féminismes noirs en Europe. Mm-hmm. Donc, j'avoue que je suis assez contente de ça.
Bravo, voilà. Bravo, super. Et toi, Mel?
Quel talent. Et moi, eh ben, écoute, quand même, je pense qu'on peut se faire un petit applaudissement et une petite tape dans le dos pour Quad Meuf, qui est une newsletter qu'on a lancée en début d'année, donc en janvier. Ça nous a beaucoup appris, je pense, en termes, enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup appris en termes journalistiques. Et en termes de recherche, en termes d'ouverture sur tout ce qui est différents types de médias, ça nous a ouvert plein de portes dans ce podcast et ça nous a fait aussi rencontrer plein de gens vraiment super. J'ai aussi un autre podcast que je mène de front qui s'appelle Le Chip sur Arte Radio, qui parle de la culture afro, co-animé avec mes deux amis Kevin et François.
Un petit bruit buccal, rendez-nous les chips. Subtilement dosé, le chip est en danger.
Et du coup, moi aussi, je continue en parallèle mon job de journaliste. Donc, je suis quand même assez contente. Et je termine assez contente aussi d'avoir voyagé. Je suis allée en Asie en septembre et là, je vais en Afrique. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Et toi?
Alors moi, pareil, comme toi, je suis contente d'avoir voyagé. Je me suis également abonnée à Netflix, après tout le monde, mais il n'est jamais trop tard. Pour régresser, j'ai acheté une PS4 et j'ai eu la chance de jouer à un jeu qui s'appelle Life is Strange, que je vous recommande, qui est un jeu féministe sur des... d'horribles histoires qui se passent sur un campus américain. J'ai aussi rejoint une chorale. Voilà, pas de commentaires désobligeants.
Oh, sur ton chemin. Moi, je pense à Glee plutôt.
Ouais, c'est plus ça, en fait. C'est plus des nerds a cappella. Donc voilà, on a fait notre newsletter et notre podcast. Donc je pense qu'on peut effectivement être très contente. Et depuis, je travaille en coworking avec le collectif des Journalopes, qui sont des gens assez géniaux. Donc voilà. Amen.
Bravo, bravo les meufs.
C'est cool.
Le moment pop culture.
Bon, passons aux choses sérieuses. Les tops de l'année 2017, que ce soit en termes politiques, pop culture, féminisme, antiracisme. Qui est Miss? Pour toi, c'est quoi les tops de l'année 2017?
Alors, je vais commencer par le premier top qui est genre purement... pop culture, mais pas seulement, enfin bref. Donc moi, mon premier top, c'était de voir Solange au Willow Green. C'était juste genre fabuleux.
Ah, la chance.
Ah ouais, c'était trop bien. J'étais avec mes copines, on était en groupe, on a crié quand elle a mis Losing You et Don't Touch My Hair. Donc non, c'était super. Ensuite, j'ai un autre top, mais c'est un peu le top, la pop culture, c'est politique. C'est la sortie du film d'Amandine Gay. C'était vraiment incroyable. Ça, c'était
ouvrir la voie,
le documentaire d'Amandine Gay.
Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme. Alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film.
C'était vraiment incroyable de le voir sur grand écran, de voir l'accueil en fait des gens, de l'avoir aussi avoir des prix. Enfin, c'était fou, quoi. Donc, c'était vraiment une belle aventure et elle méritait. Et ensuite, purement politique, même si on s'est beaucoup enjaillé pendant ce festival, c'était le festival Nyan de Sapo, qui a été organisé par le collectif afroféministe Moissy. Donc franchement, bravo les filles, elles ont vraiment géré. C'était donc un festival sur 3 jours où il y avait des conférences donc, sur la violence policière, sur le sexisme. On a vu des collectifs afroféministes européens qui se sont rassemblés. C'était vraiment quelque chose d'historique un peu, hein. Donc c'était vraiment plein de flamboyance, plein de rage politique et plein de bonheur quand même, plein de
ouais,
sourires.
Parce qu'en fait, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a eu une petite controverse. Enfin, petite.
Ouais. Ça n'a pas été très bien
accueilli. C'est monté jusqu'au time quand même. Il y a eu une controverse sur le festival parce qu'il y avait des ateliers en non-mixité.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc, il y avait des ateliers qui étaient réservés aux femmes noires et disons que ça n'a pas plu à certaines personnes qu'on ne citera pas ici parce que la flemme. mais en tout cas, effectivement, il y a eu une grosse résistance. Et quand je suis partie à Londres il y a quelques temps, on m'a dit, mais c'est fou. Nous aussi, on a fait un festival de Black Girls Festival et on n'a pas eu du tout le même retour. Donc, c'était... C'était sport, mais au final, le fait d'être là, le fait d'être tout ensemble, le fait d'avoir des femmes noires à la fois artistes, militantes, écrivains, enfin, c'était très fort comme moment, vraiment. Donc merci les filles.
Ouais. Et à l'année prochaine.
Oula, et bah, il faut donner aux filles. Mais oui, c'était cool.
Et toi, Juliette, alors, t'es top de l'année?
Alors moi, mon grand top de l'année, en fait, c'est un top un peu collectif qui concerne le cinéma. En fait, j'ai pu constater, enfin, je suis pas la seule hein, d'ailleurs, qu'il s'est passé quelque chose de très agréable dans le cinéma, notamment en France cette année. C'est qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs films qui explosaient complètement les représentations habituelles genrées de la femme, de l'homme, des relations entre l'homme et la femme. Et donc, je vais parler de notamment d'un de ces films qui s'appelle Grave de Juliette Ducournau.
T'es végétarienne, toi, maintenant?
Bah non, pourquoi?
Et elle, c'est ta sœur?
Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas.
T'es sérieuse là? C'est pas la mère à voir, franchement tout le monde y passe.
Bah t'as qu'à manger le tien alors.
Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là.
Donc en plus le film a une actualité puisqu'il vient d'avoir le prix Louis de Luc.
Ouais.
En fait c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rentre en école vétérinaire et qui subit un bizutage un peu humiliant. Et en fait elle va ensuite complètement renverser ce rapport de domination en devenant cannibale, tout simplement. Wow.
Donc, voilà. Extrême. Une bonne alternative.
C'est ça. Et donc, la réalisatrice elle-même définit son film comme un film féministe cannibale. Donc, ça pose un peu l'idée. Et donc, l'enjeu ici, c'est vraiment de se réapproprier le corps de son héroïne, puisque très littéralement, elle va se mettre à elle-même devenir consommatrice de chair. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment une figure très, très intéressante. Et en effet, la chair et le corps est au centre du film. Mais n'est jamais filmée de manière glamour ou érotisée ou n'est jamais en fait filmée pour plaire ou exciter un spectateur potentiel masculin. Donc, ça fait plaisir. Il y a notamment une scène qui a marqué un peu les esprits où l'héroïne s'épile la chatte en fait et c'est une scène qui restera dans les annales que je vous invite à regarder.
Je dois dire que je n'ai pas vu le film, je l'ai raté, je ne comprends pas pourquoi.
Il y a encore temps.
Ouais. Non, je crois pas qu'il soit temps, mais peut-être
en 2018, tu pourras te rattraper.
C'est ça. Alors moi, contrairement à toi, j'ai un top qui n'a rien à voir avec le cinéma, justement. Donc moi, j'étais plutôt très contente de voir toutes les séries féministes en fait, qu'il y a eu cette année. Il y a vraiment eu un embouteillage entre les nouvelles séries comme La Servante Écarlate.
We'll serve the leaders. And their barren wives, you will bear children for them.
Smilf, Big Little Lies, Alias Grace, 13 Reasons Why, The Bold Type, il y en a encore beaucoup d'autres. Et aussi celles qui existent déjà et qui continuent à être diffusées. Donc Girls qui s'est terminée cette année, mais aussi Broad City, Insecure, Transparent et Scam qui est une série scandinave. Et c'est vrai que pour moi, en fait, les séries ont vraiment pris le relais du cinéma en prenant en charge les questions de genre. Et je trouve que c'est un format où ces questions se négocient maintenant, surtout que c'est un médium qui permet d'être très réactif, en fait, plus que le cinéma. Voilà. Et toi, Mel?
Bah ouais, moi aussi, en série, j'en ai déjà parlé, mais The Good Place, ça a été vraiment la série qui m'a aidée à tenir en 2017.
Bienvenue à tous au bon endroit.
Au bon endroit.
Au bon endroit. On est très heureux. Ce quartier est un véritable chef-d'œuvre.
Merci. C'est très gentil de me dire ça. Mais c'est aussi totalement faux.
Un gros bazar.
Tellement bien. Et aussi, j'ai commencé une série qui n'est pas très féministe, mais qui a un personnage féminin dans la première saison que je trouve assez intéressant. La série s'appelle Peaky Blinders. C'est une série avec Cillian Murphy qui est diffusée sur Netflix, si vous voulez la voir. Donc il y a plusieurs saisons. Moi, j'ai regardé que la première saison. Et en fait, je me suis rendu compte. Au début, je croyais que c'était une fake news, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que Cillian Murphy, c'est l'homme le plus beau du monde.
Il y a débat
après l'avoir vu sous toutes les coutures. Donc voilà, je conseille cette série. Sinon, un autre top qui, pour moi, malgré la douleur qui l'accompagne, je trouve que le hashtag MeToo, en fait, et tout ce qui s'est passé après l'affaire Weinstein, c'est vraiment un top dans le sens où. pour la première fois voir des femmes entendues et voir surtout des conséquences, parce qu'en fait c'était ça avant, non seulement on croyait pas les femmes quand elles dénonçaient des agressions sexuelles et des viols, mais en plus les mecs qui en gros il suffisait qu'ils disent non c'est pas vrai pour qu'il y ait pas de conséquences quoi. Et là, pour la première fois, même le non c'est pas vrai, bah, ça engendre rien. Et en fait, les hommes sont tenus responsables de leurs actions, quoi. Et je sais pas si ça va durer, parce que personnellement, j'ai toujours un peu peur quand il y a des avancées féministes, que ce soit accompagné d'un retour de bâton très fort.
Violent.
Voilà. Et je me dis, peut-être qu'on va arriver à un moment où on va nous dire, oh là là, c'est bon, vous avez eu ce que vous voulez, donc maintenant, fermez-la, quoi.
Après, j'ai envie de te dire, elles nous le disent déjà, donc...
bon, on est habitués, quoi. Voilà.
Oui, et puis ouais. Surtout, pour l'instant, les procès pour harcèlement sexuel, en tout cas au travail, je crois que c'est 95% de non-lieu, d'affaires classées. Et donc, je pense qu'il y a quand même vachement de marge pour que ça évolue. Donc, il y a quand même un petit espoir que ça, ouais, que ouais, ça change, vu le climat actuel.
Bah, ouais. Alors après, les gens disent que c'est négatif et que maintenant, les hommes, ils vont avoir peur de nous mettre des mains au cul et de nous appeler chouchou en réunion. Bah, écoute...
Bah, tant mieux. Tant mieux. En fait,
tant mieux.
Mais c'était le but.
Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres tops? Moi, j'en ai un autre. Donc, moi, cette année, j'ai surtout retenu que la presse féministe avait vraiment pris son essor. Et le New York Times, notamment, a nommé une gender editor, donc une journaliste qui va chapeauter en fait, ces questions-là, qui s'appelle Jessica Bennett, qui a écrit un manuel qui s'appelle le Fight Club féministe pour résister dans le monde du travail. Donc on attend toujours ce genre de poste en France. Si
ouais, on a eu la verticale de BuzzFeed 9.
Oui, c'est vrai. Mmh. Mais au monde, il n'y a pas...
Ah, ils ont autre chose à faire.
Après, je pense que, moi, je bosse dans une petite rédaction d'un journal super cool. Bon, ça fait un peu genre.
Vas-y, vente ta
promo.
Vas-y,
mais bon.
vas-y.
Non, mais en fait, c'est un magazine d'information généraliste qui est basé sur les femmes, ouais. Qui s'appelle Femmes ici et ailleurs. Et donc, c'est 80 pages, c'est un bimensuel. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte à quel point il y a un manque en fait de l'actualité des femmes. Tu vois, de l'actualité des femmes, mais pas seulement des people. Bon, j'adore lire l'actualité sur les people, mais sur des femmes qui font changer le monde, en fait. Donc, t'as des activistes, t'as des militantes, etc. Et en fait, je me dis, c'est vrai qu'il y a pas... c'est sûr que c'est pas au niveau du New York Times ou du Monde qui fait, genre, le Monde Femme ou un truc comme ça, ou le Huffington Post Femme. Mais il y a quand même des choses. Et du coup, pour moi, c'est quand même important de les valoriser parce que, parfois, ça part de ces petits médias, donc Femmes ici ailleurs, ce genre de choses, et qui vont permettre en fait de faire émerger des gros magazines comme ça, parce que en fait, au bout d'un moment, je pense que les grands médias vont être obligés de se positionner, quoi.
Mmh. Ouais.
Donc, voilà. C'était important pour moi de le dire.
On espère. Et en fait, moi, c'est surtout la presse pour ados américaines que je trouve qui est devenue assez passionnante ces dernières années. Il y a notamment Rookie, le site de Tavi Gevinson. Il y a Here, qui est une plateforme LGBT lancée par le magazine 17. Et il y a également Kazoo, qui est un magazine pour les filles fortes de 5 à 10 ans. Donc ça, c'est vraiment très, très mignon et très inspirant. Et aussi Teen Vogue, dont la rédac-chef, je ne peux pas prononcer son nom, Elaine Weltroth, voilà, qui s'est beaucoup saisie des questions politiques cette année et voilà, qui est allée au-delà de parler juste de maquillage. Et de,
avec l'article de sur comment Donald Trump gaslight l'Amérique,
ouais,
qui a fait
ça.
Vraiment émerger Teen Vogue comme une source politique.
Ouais, assez inattendu en fait, et c'est bien qu'on les prenne au sérieux et qu'on s'intéresse voilà, à leur avis aussi.
Ouais, ouais.
On va parler des pires fails de l'année. C'est-à-dire des très nombreux échecs en politique, dans la pop culture, dans la pub.
2017, ça va être ta fête.
Ouais, c'est ça.
C'est pas mal, ça.
Alors, qui a un fail à partager, Juliette ?
Oui, moi j'ai un fail qui est peut-être pas le plus spectaculaire, mais que je trouve quand même assez intéressant. C'était en fait, alors je reste dans le domaine du cinéma, hein. C'était un fail au moment de la sortie française de Blade Runner. 2049, en octobre dernier, donc le film de science-fiction de Denis Villeneuve. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Sony, le distributeur France, a communiqué sur le film en diffusant 4 affiches publicitaires qui correspondaient à chacun des 4 personnages principaux du film. Donc 3 hommes et une femme. Et en fait, sur les affiches, les 3 affiches représentant les acteurs masculins comportait leur nom en haut de l'affiche, en lettres très visibles, voilà, éclatantes. Et l'affiche représentant le personnage féminin n'avait pas de nom. Donc c'était une femme sans nom.
Un grand classique.
Voilà, un grand classique. Donc un corps féminin sans nom. Voilà,
sans identité. Quoi.
Sans identité, complètement dépossédé de son identité.
Mais ça suffit à attirer le chaland,
apparemment. Et ben voilà, évidemment, ça suffit à attirer le chaland. Et c'est bien le but. Et d'ailleurs... Pour compléter, les trois hommes des affiches masculines étaient représentés de façon tout à fait honnête, on va dire, de face, voilà, stoïque. Et la femme, évidemment, était représentée de dos, mais tournait son regard, en fait, vers l'objectif. Et donc, ce qui permettait à son corps d'être un peu en torsion. Donc, on voyait à la fois ses fesses et ses seins, ce qui est double effet exclu. Voilà, donc un bon exemple de marketing sexiste que l'on n'aime pas et qu'on n'a plus envie de voir. Voilà.
Et tu disais aussi que le film, dans la manière dont il représentait les femmes, n'était pas non plus
très progressiste.
Parfait. Oui, voilà. En fait, c'est vrai qu'on peut se demander si cette affiche, si ce fail de l'affiche représente une réalité du film. Et c'est vrai que le film, en fait, il est un peu problématique parce que il dépeint un univers futuriste qui est très sexiste, hein, où les femmes sont vraiment, enfin, certaines femmes sont vraiment des objets, et où les images de corps féminins très sexualisés, voire pornographiques, sont vraiment diffusées à haute dose dans toute cette société. Et en fait, le film n'a pas vraiment de discours critique sur ça, et au contraire, il s'en sert un peu, c'est-à-dire que cette toile de fond sexiste sert un peu au film de décor glamour et sexy, quoi. Donc en fait, c'est toujours le truc de, est-ce que pour dépeindre une société sexiste, on est obligé est-ce que pour dépeindre une société sexiste, on est obligé de diffuser des images sexistes et des stéréotypes, quoi, qu'on est censé vouloir ne plus voir. Donc,
Après, c'est quand même un grand classique aussi de la science-fiction de ne jamais arriver à réinventer les rapports de genre. Et autant on peut inventer des navettes spatiales, des nouvelles planètes, mais alors par contre,
les femmes, elles sont toujours à la maison. Et...
C'est ça. Ouais. C'est déjà, il n'y a jamais de diversité ou de personnes queer, et les femmes ont toujours des rôles stéréotypés. Et c'est un écueil que très peu de gens prennent en compte, sauf effectivement les sœurs Wachowski.
Bien sûr, les sœurs Wachowski,
qui font Sense8 et Jupiter.
Et Cloud Atlas, oui, et voilà. Puis même dans Matrix, c'est vrai qu'il y avait des rapports de genre qui étaient plutôt égalitaires, quoi.
Mais c'est vrai que la science-fiction, c'est un monde très blanc.
C'est aussi un monde très blanc.
Mais justement, je m'y connais peu, mais en fait, du coup, comme j'ai vu qu'il y avait une femme noire, je suis ce genre de personne, oui, je sais, qui s'appelait Nnedi Okorafor, je crois, il me semble, qui a fait une série...
Qui a signé un contrat avec HBO pour développer une série...
Tout à fait, et tout à fait ça, et justement, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis effectivement rendu compte que oui, même dans la science-fiction, ce que tu dis, c'est que on peut inventer d'autres mondes, mais que les rapports sociaux, donc de genre ou de race étant une construction le terme sociologique de race, on est tous d'accord, ils sont pas du tout changés, quoi. Ou carrément, en fait, il y a pas de personne noire dans le futur. C'est pas où nous sommes,
oui, mais c'est là.
Dans The Handmaid's Tale, c'est un peu ce qui s'est passé, la série dont tu parlais, en fait.
C'est exactement ça, voilà. C'est vrai que The Handmaid's Tale, ça peut être un peu un contre-exemple de comment montrer une société sexiste, mais sans propager un discours sexiste ou sans en tirer des images glamour ou potentiellement excitantes, quoi.
Et toi, Kiémis, qu'est-ce que tu as retenu des fails de l'année?
Alors, il y a eu pas mal de fails, malheureusement. En fait, je sais pas si c'est Twitter qui me fait voir beaucoup de fails, mais bon, voilà. Alors, le premier fail, c'était quand même l'élection présidentielle 2017. Française, américaine et française. Hein, voilà, c'était moyen pour moi. C'était zéro. Hein.
C'était trigger warning.
Faut dire une chose. Moi qui adore regarder les débats politiques, là, alors j'étais soit saoulée, soit juste ennuyée. Je me faisais chier, je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà. Donc ça, c'était moyen. Et puis, le fail de... Là, je suis obligée de rebondir, en fait, sur l'actualité, parce que là, il y a un gros fail de l'année, donc on pourra en parler aussi dans une autre section, c'est les blackface.
Ouais.
Il faut arrêter.
Numéro 2, produit de l'année.
Voilà, c'est vraiment... Et puis pas que les blackface en France, parce que bon, c'est pas juste un individu,
on
en fait.
On peut peut-être rappeler ce que c'est, la blackface. Bah,
tout à fait, c'est le fait de se grimer, en fait, une personne blanche qui se grime en noir, qui se met de la peinture noire, et souvent qui accentue aussi certains traits, donc les traits de la bouche qui deviennent rouges. Pas tout le temps, mais souvent. Et donc voilà, donc ça c'était... C'est pas juste un individu, hein, parce que là, il y a eu un dernier cas avec le footballeur...
Antoine
Griezmann. Mais bon, c'est pas que lui. Il y a aussi aux Pays-Bas, il y a aussi en Espagne. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même très répandu aussi sur le continent européen et pas qu'aux États-Unis. Voilà. Donc,
et oui, pourquoi ça... c'est problématique d'après toi? Parce que...
En fait, oui.
On entend souvent la défense.
Ah, oh, mais.
Oui, voilà. Donc en fait, c'est problématique parce qu'en fait, c'est un objet historique qui a été utilisé pour se moquer des Noirs pendant très très longtemps. Et qui est toujours utilisé pour se moquer des Noirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une controverse à la fin des années 2000 sur voilà, cette soirée où on s'était déguisé en Africain. Mmh. Alors, je ne sais pas ce que c'est, se déguiser en Africain, mais en tout cas, ça ne ressemble pas à des peaux de bête et je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est aussi... Voilà, c'est toute une image, en fait, qui est associée au corps noir, qui est une image qui est très stéréotypée, très moquée, même si on ne veut pas le dire. Et ce qui est intéressant avec le blackface, c'est qu'on va dire, par exemple, je me déguise en telle personne, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objet significatif, en fait. C'est juste tu te déguises en noir. Mmh. C'est pas genre je me déguise en Solange, ou il y avait eu cette affaire aussi, mmh. ou je me déguise en telle personne très précise. En fait, c'est que souvent, c'est juste on se déguise en personne noire et générique. Mmh. Et donc, du coup, ça nie vraiment l'individualité aussi des personnes noires. Donc, moi, je dis non à la blackface, stop.
Oui, on dit non.
Voilà.
Je pense qu'on est toutes d'accord. Mmh.
Et toi, Mélanie?
Alors, moi, j'ai deux fails assez pop. Hein. On se rappelle tous, j'espère, de cette publicité magnifique de Pepsi et de Kendall Jenner. Oui, voilà. Pour ceux qui sont passés à côté, donc Pepsi a sorti une publicité avec Kendall Jenner qui fait partie de la famille Kardashian, qui est la mannequin de la famille, dans laquelle Kendall était arrivée au sein d'une manifestation qui rappelait fortement les manifestations de Black Lives Matter. Et donc elle arrive et l'affrontement monte entre les manifestants et la police, et Kendall arrive avec une canette de Pepsi, en donne à la police, et la police dit bah finalement c'est bon, on n'a pas besoin de tirer sur les gens quoi. Et donc énorme fail, controverse, enfin, les gens étaient scandalisés, à raison quand même, hein. Dans le sens où on voyait vraiment que Pepsi se sont dit alors comment on pourrait être dans l'air du temps avec une fille qui est à la mode en ce moment, et ils se sont complètement cassé la figure.
Tout ça pour vendre du soda.
Tout ça pour vendre du soda qui est même pas bon, soit dit en soulignant.
Du soda cancérigène. Hein.
Voilà, mais c'était épique en fait en termes de proportion. Tu te demandes combien de personnes ont participé, les gens qui ont validé ça, tu vois, ah, c'est bon les gars, on y va.
Enfin, tout le monde a trouvé ça cool.
Personne ne s'est dit à un moment donné, attendez, on va peut-être pas prendre des manifestations qui sont dans l'actualité politique et qui traitent d'une réalité douloureuse pour vendre du soda. Non, c'est bon, on le fait. Allez les gars, on y va.
Et puis on le fait, mais d'une manière tellement nulle. Ah, il t'a eu du soda. Non mais attendez là.
Non mais ils ont dû se dire c'est bon là, on est dans l'actu, c'est bon les mecs.
C'est exactement ça, c'est des récupérations pour le marketing. C'est comme là récemment, il y a eu une récupération vraiment bien dégueu de justement tout le mouvement Balance ton porc, etc. D'une marque de cosmétiques qui a fait une campagne d'affichage sauvage dans la rue où on pouvait lire en gros et mademoiselle, t'es charmante, ou enfin, en gros, une phrase de harcèlement de rue, quoi. Et en dessous, le hashtag balance ta crème, parce que le but était de vendre une crème cosmétique.
Je vois pas le rapport avec la choucroute.
Donc, enfin,
mais si tu mets la crème, tu te fais harceler, donc c'est cool.
Ouais, tu peux leur jeter une crème à la gueule.
Non, donc j'ai un conseil pour les agences de com. Non, lâchez l'affaire. Laissez les mouvements politiques là où ils sont et allez voir ailleurs, parce que à chaque fois, c'est une catastrophe.
Franchement, je me demande ce qu'ils apprennent dans. Enfin, bon, bref. mais c'est quoi la réunion où tu te dis, bon, alors je vais dire balance ta crème alors que le but c'est de dénoncer des harceleurs. T'as comme
et tout le monde, ouais, mais c'est génial.
Non, mais à chaque fois, tu te dis, bon, les gars, va falloir qu'on arrête là. Non. Enfin, bref.
Ah là là. Voilà, merci.
Et fail.
Donc mon deuxième fail, parce que je le maintiens, c'est Beyoncé qui ne gagne pas le Grammy du meilleur album pour Lemonade. Jamais je ne laisserai passer ça.
Amen.
C'était un choc, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était Adele en fait qui a gagné pour son album 25. Et donc elle a gagné et elle a dit dans son discours d'acceptation du trophée qu'elle était dégoûtée, qu'elle aurait voulu que ce soit Lemonade qui gagne. Donc elle a parlé au nom du peuple.
Oui, c'est parfait.
Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'était déjà arrivé assez régulièrement en fait qu'aux Grammy Awards, que les Grammy récompensent des artistes blancs, ce qui est tout à fait raisonnable, mais et ne récompensent pas des artistes noirs avec des albums et des morceaux très
fondateurs.
Très fondateurs. Faut savoir que Taylor Swift, elle a gagné 2 fois album de l'année. Beyoncé, elle a gagné 0 fois.
Ouais. Non, mais attends, déjà, est-ce qu'on peut en parler?
Mais parlons-en.
Déjà, en plus, Lemonade, c'est quoi? Lemonade, c'est un album visuel d'une heure qui passe sur HBO. Enfin, qui a fait ça? Enfin, elle a un peu révolutionné le truc avec des fans noirs. Enfin, avec
très
la
politique.
Poésie, c'est politique, c'est beau à regarder, enfin, c'est incroyable, tout le monde s'est réuni devant son poste de télévision pour regarder ça, les musiques sont super, elle a fait un peu, elle a un peu allé chercher dans la country, des influences musicales très variées. Je suis désolée, j'adore cet album.
Ah bon?
Étonnant. Et même, enfin même Adèle a dit non mais bon les gars vous êtes sérieux là.
My artist of my life is Beyoncé and this album for me, the Lemonade album was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental.
Non mais tu vois, enfin c'est quand même choquant de voir que on a une artiste aussi important, tu le dis toi-même, qui a un impact aussi énorme dans la pop culture américaine, se faire passer devant. Et j'adore Adèle, mais en plus, 21 ans, mais enfin.
Non, puis en plus, ce qu'on peut noter, c'est que les Grammys derrière ont changé. En fait, on fait comme l'Académie des Oscars.
Il y avait Grammy So White.
Voilà, donc ils ont changé en fait la composition des gens qui votent en fait aux Grammys parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que c'était que des vieux blancs. Mal, désolé, qui votait en masse en fait, et mais mine de rien, ça influence vachement et ça, et c'est pas neutre quoi. Donc voilà, fail, Lemonade, tu es mon album de l'année, sache-le. Voilà. Et toi, Clémentine?
Alors moi, il y a un fail pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est celui des Oscars. Si vous vous rappelez, en février dernier. Voilà, au bout de quelques heures où tout le monde somnole, la cérémonie des Oscars se termine. Et au moment d'annoncer le film gagnant, donc Warren Beatty et Faye Dunaway, qui sont tous les deux très âgés, montent sur scène. Et Warren Beatty se trompe d'enveloppe. En fait, il lit une enveloppe qui était pour Emma Stone et il annonce triomphalement La La Land, meilleur film. Donc là, le réalisateur Damien Chazelle monte sur scène, la bouche en cœur.
The Academy Award. For best picture.
You're awesome. Come on. La La Land.
Yeah. La triomphant. Et là, c'est le drame.
Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won.
Parce qu'en fait, donc c'est Moonlight de Barry Jenkins qui a gagné. Donc là, c'est le chaos dans la salle.
Et c'est le chaos chez moi aussi. Hein.
Partout.
Le chaos à la maison. Et donc voilà, en fait, à titre personnel, moi, je préfère Moonlight à La La Land pour beaucoup de raisons. Et j'étais assez ravie puisque je trouvais que c'est vrai que c'est assez rare que ça dérape dans une industrie où tout est hyper calibré, hyper bien rodé. Et normalement, il n'y a jamais aucune surprise.
Et puis ce plan où le mec il tient le carton où il y a marqué Moonlight et qui fait Moonlight, vous avez gagné. Et puis gros plan,
c'est Moonlight. Ouais.
Non, c'était vraiment un très bon moment.
C'est mythique.
Ah ouais, non, c'était épique ça.
Sinon, j'en ai un autre un peu plus tragique. C'est le Firefest Festival. Ça ne vous aura pas échappé, qui était organisé par Ja Rule, un rappeur quelque peu oublié des années 2000 qui a jadis chanté avec J-Lo. Et voilà, et depuis, il a eu comme idée un vanity project, donc un projet un peu à sa gloire. Il a décidé d'organiser un festival qui est devenu un fiasco monumental, puisque donc au printemps dernier, donc il organise ça sur une île aux Bahamas. Il vend l'expérience à tout le monde comme quelque chose de très luxueux. Il embauche des influenceuses pour faire de la pub. Et il vend des billets à au moins 1 000 $. Il propose à des artistes de se produire sur place. Donc Blink-182, pour les gens qui aiment encore ce groupe. Major Lazer et d'autres.
Oh, le tacle.
Et en fait, juste avant que le festival commence, malheureusement, il y a une tempête et toutes les infrastructures sont pétées. Donc finalement, tout est annulé le premier jour puisque les festivaliers qui se pointent commencent à se battre pour de la nourriture au milieu des chiens errants. Donc la presse a appelé ça « Disaster Tent City », c'est-à-dire qu'il y avait des tentes au milieu des poubelles. Voilà, c'était le chaos. Et donc beaucoup de gens ont posté sur les réseaux sociaux des posts en disant « Expectations versus reality ». Donc les attentes, c'était des meufs en bikini, des super villas, et la réalité, c'était trois pauvres tentes en plastique sur des palmiers délabrés et des vieux bouts de fromage.
Des curly humidifiés dans le rosé.
Donc il y a eu des plaintes, et depuis, voilà, on leur réclame des millions. Et voilà, c'était pour moi un fail assez sublime cette année.
Ah oui, c'est un fail un peu horrible, mais en même temps, ça fait, franchement, c'est pour une fois qu'on peut rire de gens riches, il arrive des horreurs. Laissez-nous cette opportunité.
Et puis tu vois, là, c'est des horreurs, mais bon, il n'y a personne qui est mort. Enfin, c'est surtout que tout le monde s'était vanté d'aller au festival. Et de là, ouais, tu vois, toutes des tentes avec genre des assiettes en plastique avec des chips.
Et Kendall Jenner, encore elle, au milieu.
Elle est de tous les plans foireux.
Elle avait une bouteille de Pepsi, là. Ou...
On ne le sait pas, je pense. Bye, Felicia. Donc, pour la suite, je voulais vous proposer de parler de ce que vous avez envie de laisser en 2017, les trucs qui vous ont vraiment saoulé et que vous aimeriez vraiment que ça ne nous suive pas en 2018. Qui est Miss ?
Moi, je vais revenir sur l'histoire du blackface, je dis non. Voilà. Donc, clairement, ouais, je dis non. Ce que je laisserai en 2017 aussi, c'est... l'hystérie masculine autour de l'écriture inclusive. À un moment, bon, on va se calmer, quoi. Enfin,
Académie française, voilà, si tu nous entends, personne n'est mort.
Personne n'est mort, voilà, tout va bien. Donc j'aimerais bien qu'on laisse ça un petit peu en 2017. Ouais. Donc tout ce qui est... parce que bon, on va pas être non plus trop... Tu vois, trop optimiste en disant oui, la paix dans le monde, tout ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses... Surtout les gens qui parlent à la place des concernés, donc des mecs, par exemple Matt Damon, je sais pas si vous avez vu, qui a commencé à dire des choses sur le mouvement MeToo.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
J'ai pas... En gros, Matt Damon a fait une interview pour je ne sais plus quel média américain. Et en gros, ce qu'il a dit, c'est que si je me trompe pas, il faut savoir faire la différence entre un vrai viol et une main sur le cul, quoi. En gros,
une main sur le cul, c'est bon.
Tu vas c'est pas grave.
Ça pas non plus. Non.
Ouais. Tu fais vraiment des histoires.
Après, moi, je dis ça, on ne sait pas ce qui se passe, mais je me dis, pourquoi tu veux faire une distinction ?
As-tu quelque chose à dire ?
Voilà, as-tu quelque chose à cacher ?
Donc voilà. As-tu peur pour tes propres fesses, peut-être ? Voilà. Ça chauffe un peu.
Donc, tout ce qui est masculinité toxique avec des S partout, on peut laisser ça en 2017, même si je suis... pas du tout convaincue que ça va arriver en 2018, mais soyons optimistes pour la nouvelle année, allez hop. Et je voulais aussi parler, on n'en a pas trop parlé, mais quelque chose qui était super intéressant de voir comment Terry Crews, en fait, qui était assez un homme assez féministe déjà de base.
Est-ce que tu peux rappeler qui c'est ?
Pardon, oui. Terry Crews, qui est un acteur américain qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, qui est une super série très drôle, qui a aussi été victime d'attouchement. Ouais. Qui s'est vraiment engagé sur la question féministe, qui est engagé aussi sur la question antiraciste, si je me trompe pas, puisque c'est un homme noir. Il est aussi un peu dans ce démantèlement, en fait, de la masculinité toxique, parce que bon, faut imaginer Terry Crews, c'est un peu genre le Teddy Riner américain, donc très grand, très baraque, etc. Et donc voilà, il est vraiment, voilà, il dit, ben voilà, vous voyez un homme noir d'1m95 qui peut se faire toucher, etc. par, voilà, donc ça peut arriver à tout le monde, et il faut déconstruire aussi cette masculinité en interpellant les autres mecs. Et en fait, c'est là où j'ai aussi envie de voir les mecs, en fait, pas en train de nous saouler en nous disant il faut faire ça, mais en interpellant, en fait,
la question de qu'est-ce qu'eux font pour lutter contre le sexisme.
Tout à fait, voilà, mais pas en venant nous voir en nous disant ce que nous on doit faire en tant que femmes pour lutter contre le sexisme, en fait. C'est en allant voir leurs potes, leurs frères, leurs pères. Et c'est ce qu'il fait, et je trouve ça vachement admirable, en fait. Voilà. Donc, lui, on le garde pour 2018, ouais, par contre.
Et toi, Juliette ?
Alors oui, je voulais revenir vite fait sur, je sais pas si tu te rappelles Clémentine, en fait c'est un article de Johanna Luisen qu'elle avait fait pour récapituler un petit peu une affaire qui avait agité alors, le milieu, certes
bien.
Un petit peu petit, mais de la critique cinéma qui est un milieu, française. Il faut le rappeler, française, qui est un milieu très masculin, il faut le rappeler. En fait, il y avait...
Tu es d'ailleurs la seule femme.
c'est moi.
La token woman.
C'est ça. Et en fait, au moment d'une rétrospective à la Cinémathèque, d'une cinéaste femme, je ne sais pas si tu te rappelles un peu des
ouais,
détails.
Dorothée
Arzner, voilà. Et en fait, un texte avait été écrit sur le site de la Cinémathèque par un journaliste homme qui minimisait complètement en fait l'importance de cette cinéaste et l'approchait vraiment d'une manière très genrée en la ramenant à son statut de femme. Enfin, bon, c'était, voilà.
Au fait qu'elle était lesbienne.
Et au fait exactement qu'elle était lesbienne. Et du coup, il y a eu plusieurs voix de journalistes femmes qui se sont élevées un peu en faux et qui ont tenu à rétablir un certain nombre de vérités sur cette cinéaste.
Et notamment là, dans Libé, ouais. Voilà, il y a eu un article là-dessus.
Ouais. Et en fait, là, le résultat ne s'est pas fait attendre, c'est-à-dire que tous ces messieurs de la critique, enfin, pas tous les critiques cinéma, mais en tout cas beaucoup, notamment de parutions tout à fait respectables, comme Le Monde, Les Cahiers du Cinéma, etc., se sont en cœur élevés pour défendre le texte de leurs confrères et usant de tout, vraiment, de tous les clichés les plus sexistes pour décrédibiliser leur concert, en fait. Donc vraiment, c'était...
Genre quoi ?
Mais genre, je sais plus exactement les termes qui étaient utilisés, mais cette greluche qui dit n'importe quoi. Mais vraiment, c'était un niveau,
oui,
si tu veux, de
misogynie. La journaliste n'était pas critique, donc déjà, n'était pas légitime, en plus d'être une femme, puis eux disent toujours oui, il faut pas mettre de quotas. Enfin non, ou non, ils disent plutôt la cinémathèque c'est le reflet de la réalité puisqu'il y a pas beaucoup de femmes cinéastes. Oui, mais en fait il y en a 20% et il y en a pas 20% à la cinémathèque déjà. Donc en fait non, ce n'est pas le reflet. Et ensuite ils disaient oui, mais il y a aussi pas beaucoup d'animaux à la cinémathèque. Donc merci
non, mais c'était
atroce.
Oh my god,
c'est horrible. Et,
ouais. Wow, okay. Et voilà, mais justement si vous voulez avoir un aperçu global de tous les arguments, tous plus moisis avec les autres qui étaient sortis, il faut aller voir cet article qu'avait écrit justement Johanna Luisen qui récapitule tout de manière en plus assez drôle, donc une bonne lecture.
Mais la Cinémathèque, c'est pas là où il y avait eu le scandale avec Polanski?
Bah oui,
c'était un peu l'année.
Ils sont hashtag problématiques.
Voilà, mais la Cinémathèque, on les laisse en 2017, je pense.
La Cinémathèque, on aimerait bien.
Et toi, Mel, t'as des fails?
Alors moi, je vais ramener ça à quelque chose de plus terre à terre, mais les hand spinners.
Oui, on est tous, on est d'accord.
On arrête,
c'est bon.
On n'en offre pas à Noël.
Personne, les enfants, personne. C'est fini.
Parce que je dis ça parce que mon mec en a un et tous les soirs il fait tourner en me parlant et j'ai envie de le tuer. Bon bref, voilà. Donc,
message avec un caractère personnel.
Jette son spinner.
Et sinon, les comédies françaises racistes.
Ah oui.
Laissons-les là. Passage obligé.
Voilà. Chaque année on en a, mais là c'était beaucoup quand même. Hein. Oui. J'ai entendu l'autre fois, j'ai pris le bus et j'ai entendu une vieille dame,
une vieille,
parler du brio. Avec Camilla Jordana et...
Yvan Attal, non ?
Daniel Auteuil ?
Ah, et c'est le réalisateur Yvan Attal.
Oui, je pense probablement. Et en gros, comme tous les films où tu as des premiers rôles qui sont arabes ou africains, bah, c'est... il vient d'une vie difficile dans la rue, il ne sait pas lire, il sait écrire. Heureusement, il va rencontrer... une personne blanche qui va lui apprendre la vie.
Un mentor qui peut être soit un professeur de musique ou de lettres ou de mathématiques.
Quelqu'un qui a de l'argent.
Et d'ailleurs, en général, sur l'affiche, t'as les deux personnages qui sont représentés avec un qui est dans une posture un peu de domination, qui est plus grand, et puis l'autre, donc l'apprenti qui le regarde
béatement.
Voilà,
exactement. Après, et du coup, là, dans le bus, la femme disait « Ah, mais ce film, c'est génial! Enfin, ça apprend aux minorités qu'il faut pas arrêter de se victimiser, arrêter de parler. » Donc en fait, je pense que ces films ont vraiment une influence néfaste sur la société, quoi. Je suis désolée, mais les films avec Kev Adams qui fait des blagues sur les juifs en permanence et tout, c'est pour moi, c'est des problèmes de société, quoi. J'en ai marre de ces films, j'en ai marre qu'ils soient financés par le CNC, j'en ai marre que, tu vois, le CNC veut pas financer Ouvrir la voie. Par contre, ça, oui, c'est un scandale, quoi, et j'en ai marre et je voudrais que ça s'arrête. Donc en 2017. Au revoir.
Je croyais qu'on peut mettre aussi les films de... Comment il s'appelle déjà? Christophe Christian Clavier, je sais pas.
Ah oui, Christian Clavier.
Je sais pas quoi.
C'est qui lui déjà, Christian Clavier?
Jacouille. Qui est cette personne?
Non mais tu vois, enfin les films avec Mercier, genre on fait des comédies sur les clichés racistes. Et genre c'est juste les clichés racistes, mais tout le monde rigole.
Voilà.
Tu vois, genre t'as mis des rires pré-enregistrés, mais donc c'est pour dire qu'en gros c'est des blagues. Il y a aucune déconstruction derrière. Mais... Et puis après, on avec nos impôts.
Et après, on dira, ça va, c'est bon, c'est pour rire. Bah ouais, mais pff, au bout d'un moment.
Bah ça fait rire qui, quoi.
Voilà. Voilà, voilà.
Et toi, Clémentine?
Alors, moi, j'en ai marre du toast à l'avocat. Je sais, ça n'a rien à voir avec le féminisme.
Je suis pas d'accord, c'est trop bon, l'avocat.
Ouais, mais attendez, au Mexique, vous avez vu ce qui se passe pour
bah, voilà, la crise déjà, de l'avocat c'est la déforestation avocatière dans moult pays. Et en plus, il y a eu aussi un article très drôle aux États-Unis disant que si les millennials, donc les gens de notre âge, ne peuvent pas acheter aujourd'hui des biens immobiliers, c'est parce qu'ils dépensent tout leur argent en toast à l'avocat. Donc voilà, c'est un peu la victoire. Team expiatoire de l'année 2017, je tenais à le dire. Mais voilà, mais plus sérieusement, moi, les personnes que je voudrais mettre sur un radeau et abandonner sur le rivage, c'est bah, tous les harceleurs dont on a parlé, Kevin Spacey, Louis C.K., Harvey Weinstein. Bye bye, restez dans vos spas pour sex addict. mais malheureusement, voilà, on sait que tel un boomerang, ils vont bientôt entamer leur tournée de la rédemption et faire leur comeback pourri, sans doute en 2018, mais on les attend
au tournant,
à l'arrivée, c'est ça. Alors sinon, on voudrait aussi parler de vos projets et vos souhaits pour 2018.
Juliette, qu'est-ce que tu souhaites ?
En 2018, en fait, je voulais juste parler de ce qu'on va un peu faire dans le magazine, parce qu'il y a des trucs très cool qui arrivent, et notamment une nouvelle rubrique dessinée qui sera faite par Myrion Mal. Je savais que vous seriez contents, les filles. Donc voilà, qui est une jeune auteure de chroniques dessinées, qui a un blog qui s'appelle Commando Culotte, et donc elle va faire une chronique tous les mois dans le magazine, où il s'agira d'analyser un film ou une série par le prisme du genre, donc un nouveau rendez-vous que j'attends avec impatience.
Super.
Et sinon, ce que j'attends particulièrement pour 2018, c'est notamment la saison 2 de la série Big Little Lies.
Ouais, mais je crois qu'ils vont seulement la tourner en 2018, non?
Oui, c'est pas grave. Voilà. En fait, ça sera réalisé. Tous les épisodes seront réalisés par la cinéaste britannique Andrea Arnold, qu'on adore, voilà, qu'on aime, quoi. Qui avait réalisé Fish Tank et récemment American Honey, qui est sorti en 2017. Voilà.
C'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut.
Et toi, qui es Miss 2018?
Alors moi, j'attends, je l'avoue de manière tout à fait égocentrique, mon recueil de poésie. J'ai trop
nous
hâte.
Aussi, on l'attend.
J'ai trop hâte. La poésie, c'est pas boring. C'est assez étrange pour moi de choisir ce moyen d'expression, mais je trouve que ça parle beaucoup plus que forcément un essai politique ou ce genre de choses. Donc voilà. Et puis plus généralement, en fait, j'attends beaucoup des projets de plein de plumes et plein de personnes qui sont afrodescendantes. Y a beaucoup de podcasts, par exemple le Chip que j'adore, j'écoute tout le temps, mais The Why, etc. En fait, il y a une grosse émulsion, en fait. Émulation, parce qu'émulsion, c'est la crème. Il y a une grosse émulation, en fait, donc de plein de personnes afrodescendantes et surtout afro-françaises, parce qu'on est quand même beaucoup concentré sur les Américains. Mais en Angleterre, en France, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc du coup, j'ai trop hâte et je suis trop contente d'être dans cette époque, en fait.
Ouais.
Même s'il y a l'extrême droite en full force, mais c'est pas grave, nous on est là aussi, quoi. Donc voilà.
Et toi, Mel?
Alors moi, j'attends Black Panther en février.
Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants.
Donc le premier blockbuster, on le rappelle, le film de super-héros au casting entièrement noir. Enfin, il y a quelques blancs, mais bon, les héros sont noirs. J'attends la domination nationale de l'écriture inclusive.
Ouais, voilà.
Hein, j'attends que tout le monde se dise c'est bon, vous avez gagné, ok, voilà. Et j'attends aussi la destitution de Trump. J'y crois beaucoup. On y croit.
Tous les mois, tu l'as lancé en éclair. Ouais, c'est clair.
Sur CNN.
Voilà. Tous les matins. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est destitué? Ah non. Bon, bah tant pis. Non, j'y crois, ça va arriver. Et sinon, en projet perso, je vais aller en Afrique voir ma famille pour la première fois.
Oui. Wow.
Donc voilà, j'ai toujours été assez fascinée par la figure de ma grand-mère, qui est une femme très, très forte, qui a vécu toute seule tout au long de sa vie, qui était guérisseuse, qui faisait accoucher les femmes, qui avait des visions, qui parlait aux ancêtres des gens, les gens venaient la voir. Enfin, il y avait tout un aspect assez mystérieux autour d'elle. Elle est morte avant que je naisse, je ne l'ai jamais connue. Et donc je suis en train de travailler sur un projet de roman sur sa vie. Et donc, j'espère que le voyage en Afrique va m'aider, quoi, à concrétiser ça.
C'est où en Afrique ?
C'est en Côte d'Ivoire.
Ah ouais, trop bien.
Voilà. Et sinon, en parallèle, je pense que j'ai envie de développer Quoi de Meuf jusque au ciel, jusqu'à où ça pourrait aller, tu vois. J'ai envie d'en faire une multinationale, peut-être.
À l'international.
Voilà.
Global. What's up, girl ?
Voilà. Et toi, Clem ?
Alors moi j'attends avec impatience de lire un roman qui sort en janvier chez Kalman Levy qui s'appelle Le Pouvoir. C'est écrit par Naomi Alderman et donc ça raconte dans un monde dystopique, en fait les femmes ont tout à coup acquis un super pouvoir qui fait qu'en claquant des doigts elles peuvent faire mourir les gens et donc les hommes périclitent et deviennent le sexe faible, donc tous les rapports s'inversent. Et voilà,
un claquement de doigts,
ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Et donc je sais pas ce qui se passe ensuite, mais ça fait très envie.
Oh, ça a l'air trop cool.
Et j'espère aussi pour 2018 que la France comprendra enfin ce qu'est la non-mixité.
On
en parlait tout à l'heure avec le festival Moissy. En fait, il faut rappeler que c'est la base du syndicalisme, en fait, la non-mixité. C'est-à-dire que les ouvriers entre eux, ça fonctionne que s'il n'y a pas de patron. Et ça ne dérange personne. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas à d'autres sphères de la vie. Et de manière... plus général aussi, enfin dans la manière dont la pop culture et la politique dialoguent, on se souvient que par exemple dans les années Reagan après la guerre du Vietnam et dans les années Bush après la guerre en Irak, la culture a eu pour effet et pour but de reviriliser le pays. Donc il y a eu par exemple des films comme Rambo et sous les années Bush il y a eu des séries comme 24 heures chrono. Et en fait moi je suis assez curieuse de savoir quelle culture vont engendrer les années Trump. Est-ce qu'on va avoir juste Taylor Swift? Est-ce qu'il y aura une contre-culture justement?
Mais tu rigoles, mais Taylor Swift est beaucoup aimée par les néo-nazis, quoi.
Mais je sais, c'est la queen des néo-nazis.
Bah ouais, et du coup, elle dit pas grand-chose sur Trump.
Donc voilà, je suis assez curieuse de voir tout ce que ça va donner. Alors c'est la minute bonus des fêtes de fin d'année, puisque c'est aussi souvent les fêtes de la micro-agression.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse,
ça nous intéresse pas !
Un grand classique au repas de fêtes familiaux, où on entend beaucoup de propos sexistes, racistes et homophobes. Voilà, donc je me demandais si ça vous était déjà arrivé et qu'est-ce que vous entendez en général autour de la bûche et autour du sapin, Juliette par exemple ?
Alors, je pense que j'ai un peu de chance dans ma famille, en l'occurrence. J'ai pas l'impression que ce soit des discours qui soient très partagés dans ma famille. Mais mon grand-père, c'est vrai, quand il était encore de ce monde, avait tendance à glisser des remarques très racistes sur la population turque, qui est très présente en Alsace, là où il habitait. Et notamment en présence de sa belle-fille qui était elle-même d'origine turque. Donc, très, très,
parfait,
très, 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 très gênant. Voilà,
et bienvenue et joyeux Noël.
Voilà.
Et toi, qui es Miss ?
Alors, du coup, moi, la question du racisme est un peu pas trop présente. Enfin, on a plus un discours Black is beautiful et tout, donc voilà. Alors, moi, ma famille, ça va parce qu'en fait, mon père, il m'a habituée très vite à discuter, à débattre avec lui. Donc, en fait, quand on n'est pas d'accord, moi je vais pouvoir parler. Mais ce que je crains pas mal aussi, Bon, là, je suis en famille restreinte, donc ça va, mais ce que je crains, c'est surtout, en fait, les remarques grossophobes, en fait, sur le poids, parce que, voilà, je suis grosse. Donc, ça, c'est un peu gênant, surtout quand toi, t'as envie de manger, genre, ton foie gras, comme tout le monde, et qu'on te dit, bon, alors, tu vas te calmer, enfin, peut-être pas, quoi. Et, en fait, non, j'ai envie de profiter comme tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est un peu compliqué. C'est toujours aussi un peu compliqué, déjà, d'en parler, parce qu'on va te dire la grossophobie, enfin, on parle de... Tu vois, c'est pas pareil que les autres de remarques, tu vois, par exemple sexistes ou racistes ou ce genre de choses, parce qu'en fait on va dire que c'est pour ta santé. Ouais. Et alors que non, en fait,
se cacher derrière
voilà, c'est ça. Non, mais après, tu vois, tu peux avoir des problèmes de santé, mais moi
c'est des microagressions bienveillantes.
Voilà, c'est ça, en fait, et c'est vraiment entouré de bienveillance. Et alors que bon, bon, alors à la limite, j'ai envie de te dire, bon, bah, si tu veux, tu peux payer un diététicien si t'as envie de dire, hein, mais ton argent ou ta bouchée, comme on dit en anglais. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de bonne technique.
On va en parler juste après. Ouais. Et toi, Mélanie
Mais moi, c'est toujours, je sais pas pourquoi, mais ça tourne toujours autour du voile. On parle encore, oh là là, j'ai vu une femme voilée dans la rue, moi ça me fait peur, franchement, ça me rappelle le terrorisme et tout. Et du coup, là, faut reprendre les bases, quoi. Mm-hmm. Ça va pas du tout. Ou sinon, ouais, le mariage homosexuel, enfin. Le mariage pour tous. Moi je comprends pas comment on peut faire ça. Mais est-ce qu'on te demande ce que toi tu fais dans ta chambre? Est-ce qu'on te dit, ah, je comprends pas comment tu peux mettre des dessous rose fluo? Enfin, ça te regarde pas, quoi. On s'en fout, quoi. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, un débat sur les religions, de la religion la plus gênante à la moins gênante. Donc bien sûr, la plus gênante c'est l'islam, et la moins gênante évidemment, c'est le bouddhisme, parce que le bouddhisme, tu vois, c'est pas une religion, c'est une manière de penser.
C'est zen.
T'entends ça et t'entends les... Et voilà, tu sens tes neurones qui se dissolvent dans l'alcool. Voilà. Et toi, Clémentine?
Alors moi, à la dernière réunion familiale, et je suppose que ce sera la même voilà, pendant les fêtes, j'ai eu droit à... tu as déjà été harcelée? Et ensuite, la personne me serre dans ses bras disant « Et là, je te harcèle !» Puis cette personne part faire pipi sans attendre la réponse. Voilà. Donc, et du coup, avec ma cousine, on se regardait en mode « What ?» Voilà. Donc voilà, voilà.
Donc, mais... les stratégies de réponse, comment on fait?
Voilà, comment faire? Moi, j'ai demandé à des auditeurs et auditrices du podcast de nous donner quelques conseils. Et donc, on nous a répondu « Alors, donner un coup de genou, boire du chardonnay, puis vomir sur les pieds de l'intéressé, prendre de l'antiacide, faire un bingo ». Également jouer au jeu vidéo South Park qui s'appelle, enfin un chapitre qui s'appelle Microagression Academy pour se former. Et ensuite on nous a conseillé également de répondre assez parlé de féminisme et ta calvitie ça va. Donc voilà, est-ce que vous avez une réponse ou une stratégie, Juliette par exemple?
Non, moi je suis un peu démunie en fait dans ce moment là et j'avoue que je manque de répartie quand je me sens un petit peu attaquée. Voilà, je trouve que c'est difficile. Par exemple, un truc qui peut revenir aussi régulièrement quand tu passe 30 ans et que t'as pas d'enfant, voilà, c'est un peu ce genre aussi de microagression là. Alors vous y pensez pour bientôt? Ou juste, tu sais, par exemple, maman, si tu m'écoutes, le fait d'acheter à n'importe quelle brocante une petite chaise format enfant en bois et de te dire, oh regarde, tu vois, c'est mignon, au cas où, voilà, ce genre de petites choses. Et en fait, moi je suis assez démunie, donc en général je ne dis rien et je souris de manière crispée. Assez féroce et crispée. Voilà.
Et toi qui es Miss?
Alors, moi, c'est assez compliqué quand c'est des personnes qui sont plus âgées, parce qu'en fait, le manque de respect envers les personnes âgées dans ma famille, ça ne passe pas. Mais sinon, alors j'ai deux stratégies, soit fuir, quelque part, ou soit ne rien dire en fait, mais rester le visage fermé. Alors, la personne toujours va s'attendre à ce que tu dises un truc, ou même réagir, moi tu restes comme ça.
Je suis morte à l'intérieur. Voilà.
Tu ne m'attends pas. Pas dans ton délire, en fait. Et peut-être que là, c'est la personne en face qui va avoir un malaise et pas toi.
Ouais. Voilà. Bah, moi, j'essaye aussi de pratiquer l'humour, c'est-à-dire de par l'humour, montrer à quel point la proposition est ridicule, quoi. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais par exemple, tu peux pratiquer l'absurde ou exagérer jusqu'au bout de la pensée de du truc que la personne vient de te dire, quoi. Et souvent, ça déclenche un peu l'hilarité autour de la table. Donc, faut arriver à le faire sans trop s'énerver, plutôt dans le mode, bah alors papy, bah attends, je vais t'aider. Tu vois, un ton comme ça, ça peut le faire. Mais ça, moi, je le fais qu'avec les gens que j'aime. Hein. Avec les gens que j'aime pas, je fais comme toi, Camille. Je regarde comme ça, les bras croisés, je fais alors. What's up? What's
good?
et donc voilà.
Et sinon on peut aussi essayer de changer subtilement de sujet ou alors resservir les gens.
Très bon ce poulet.
Pas que vous comprendrez bien du boudin. Tenez. Voilà. Bon bah c'est tout pour ce numéro. Merci.
Merci à vous. C'était trop bien.
Merci. Bien, super.
Bonne fête à tous et à toutes si vous les fêtez et sinon.
Happy holidays.
Let it snow. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quadmeuf. Abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcasts et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye.
Quadmeuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.